Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. De quoi la quinzaine de la passion dans laquelle nous nous engageons aujourd'hui est-elle le temps, sinon celui de la justice? Vous avez remarqué comme moi, peut-être, l'introïte, le début de l'introïte, Iudicame Deus. C'est cette prière que nous récitons sans trop y penser, chaque fois que nous sommes au pied de l'autel, avant le confiteor, le psaume 42e. Pourquoi est-ce qu'on voit toujours ce temps de la passion arriver avec une certaine angoisse, encore plus grande que lorsque nous entrons dans le carême, le mercredi des cendres? Pourquoi sinon? Parce que nous nous faisons de la justice, qui est centrale dans ce temps de la passion, une idée qui est assez effrayante. Spontanément, qui dit justice dans l'inconscient collectif dit inflexibilité, dit peine, dit froide sentence, dit couperet qui tombe. On dit bien que on est froid, que quelqu'un est froid comme la justice, ou qu'il est roide, qu'il est droit comme la justice. Par surcroît, pendant les quelques jours de la Passion, nous allons méditer sur un événement central. Notre regard sera focalisé sur un procès, et pas n'importe quel procès, le procès le plus inique de l'histoire peut-être, d'un innocent qui passe entre les mains du Sanhédrin, par une sorte de mascarade de procès en réalité. Eux qui ont un culte de la loi ne respectent même pas les prescriptions juridiques de Dieu même pour mener un procès en bonne et due forme, et mascarade de procès des autorités romaines, avec un Pilate qui avoue lui-même qu'il ne trouve aucun motif de condamnation en Jésus, qui se lave les mains, mais qui laisse quand même condamner cet homme. Nous avons pendant ce temps liturgique également devant les yeux, sans doute, la sentence qui a été prononcée jadis à l'égard de nos premiers parents, qui n'est pas très sympathique, et dont les effets sont héréditaires, dont nous faisons nous-mêmes les frais. Nous aurons nécessairement, pendant cette même quinzaine encore, dans la ligne de la justice, du procès, nous aurons devant les yeux, notre propre jugement, celui qui aura lieu lorsque nous comparaîtrons devant notre Seigneur et juge pour rendre des comptes quant à tous nos faits, toutes nos paroles et jusqu'à nos pensées. Rien de ce qui a été commis, nous dit le Seigneur lui-même, au fond des chambres, c'est-à-dire au fond des pensées, ne sera révélé. Rien de ce, au contraire, tout ce qui aura été prononcé au fond des alcôves sera publié à la face du monde, lors du jugement général. Voyez. Alors, ce temps de la Passion, pour ses différents motifs, articulé autour de la justice et de son cortège pas très sympathique, nous fait peur. Et je crois que si ce temps nous fait peur, c'est parce qu'on n'a pas une notion équilibrée de ce qu'on doit entendre par justice divine. Qu'est-ce que c'est que cette justice divine? Vous voyez, pour accéder vraiment à ce qu'est la justice divine, pour cesser de redouter ce juge qui est Dieu, mais au contraire, que cette justice puisse faire l'objet de toute notre admiration et la cause de notre joie, je crois qu'un petit travail de purification intellectuelle est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par justice? Je crois que vous connaissez tous, plus ou moins, pour l'avoir étudié au catéchisme ou en classe de philo, la définition classique de la justice. Il s'agit de rendre à chacun ce qui lui est dû. Voilà ce qu'est la justice. Selon cette acception, on comprend très bien qu'en soi, Dieu n'est pas du tout à exercer la justice à notre égard. Dieu n'a rien à nous devoir. Il n'a rien à nous rendre. En soi, donc, Dieu n'est pas un justicier par rapport à nous. Il n'a de compte à rendre, j'allais dire, qu'à l'égard de lui-même. Les trois personnes entre elles sont parfaitement égales et se rendent leurs devoirs mutuellement. Et quant à la créature, aucun devoir à rendre. C'est par pure bonté, c'est par pure surabondance que Dieu a voulu créer. Et c'est alors, lorsque sa créature est sortie du néant, qu'il a voulu, voyez un peu la magnanimité de notre Dieu, qu'il a voulu se lier à l'égard de sa créature. Et alors, il est entré à l'égard de sa créature dans une posture de justice. Dieu rend à sa créature ce qu'il veut lui devoir. C'est très étrange. Et oui, regardez Adam et Ève. Dieu a choisi de les faire sortir du néant, pure gratuité. Une fois qu'ils sont sortis du néant, il leur doit de les maintenir en vie. Du moins, c'est ce qu'il veut leur devoir. Il ne les réduit pas à néant. Ce serait contradictoire du reste avec sa propre sagesse, me direz-vous. On ne fait pas sortir du néant quelque chose pour le faire retourner au néant. Je vous en parle souvent parce que c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Ce fils que Dieu croit devoir ou veut devoir à l'égard de sa créature. Et puis, Dieu s'est encore lié par un autre type de justice parce qu'il a voulu donner à l'homme tous les moyens d'arriver à sa propre fin. Dieu nous donne la volonté, Dieu nous donne l'agir, nous dit saint Paul. Dieu nous donne sa grâce. En permanence, il nous rend justice, si l'on veut. Alors que radicalement, il ne nous doit rien. C'est très étonnant. Voilà donc ce qu'est la justice de Dieu, au fond. Il ne s'agit pas de l'attitude vengeresse d'un quelconque tyran, comme on a pu parfois le croire, pas du tout. Rien à voir avec ce Dieu de l'islam qui ne cherche qu'à chicaner avec sa créature et qui voudrait le renverser. Rien à voir avec ce Dieu étrange des manichéens. Rien à voir avec toutes sortes de conceptions que les chrétiens eux-mêmes ont pu se faire au fil des siècles de Dieu. Il s'agit simplement, cette justice de Dieu ne consiste qu'en une prévenance du Père éternel, d'un Père qui aime ses enfants et qui du coup veut se lier en justice à l'égard de ses enfants. Exactement comme un père humain n'a rien à devoir à ses enfants, strictement parler. Quand ses enfants n'existent pas, il n'y a aucune justice à avoir à l'égard de ses enfants. Et une fois que les enfants viennent au monde, alors le père se lie en justice. Il leur doit le logement, l'éducation et lorsqu'il est chrétien, le baptême. Vous voyez, cette justice de Dieu est absolument merveilleuse. Et c'est un pur don de Dieu. Et parce que Dieu ne s'est pas contenté d'exercer à l'égard de l'homme une relation strictement unilatérale, c'est-à-dire que lui serait tenu à l'égard de sa créature, point, mais qu'il a voulu faire entrer la créature dans une relation mutuelle, eh bien, il exige de ses créatures qu'elles aussi, à son propre endroit, exercent la justice, qu'elles aient une relation de justice à leur créateur. Et observez un peu de près ces devoirs en justice que nous avons à l'égard de Dieu, ils sont assez importants. Dieu nous donne l'existence, il nous donne de continuer dans l'être par sa providence, il nous donne sa grâce, autant de dettes que nous contractons à l'égard de lui. Dieu, parce qu'il ne nous considère pas comme des enfants tout nouveau-nés, parce qu'il ne nous considère pas comme des personnes immatures, comme des personnes incapables, à qui n'exige rien en justice, parce qu'ils ne sont pas capables de rendre, mais parce qu'il a de nous une conception adulte, parce qu'il veut que nous soyons dans une sorte de relation d'égalité avec lui, alors il exige de nous ses devoirs en justice. Vous voyez qu'il n'y a là rien de terrible, mais au contraire, que de choses magnifiques. Et alors, le drame de l'humanité, c'est que, depuis toujours, puisque nous sommes dans une relation de créateur à créature, nous ne pourrons jamais rendre ce qui est dû à Dieu. Nous contenter que de commencer à faire semblant de rendre un petit peu à Dieu. Jamais nous ne pourrons rendre à Dieu l'être qu'il nous donne. Jamais nous ne pourrons rendre à Dieu autant que la grâce qu'il nous donne en permanence. C'est cette situation de l'humanité qui a été aggravée encore par le péché originel, par chacun de nos péchés personnels, qui appesantissent encore la dette, qui rendent encore plus lourde cette dette à l'égard de Dieu. C'est toute cette situation-là, une dette incommensurable par nature, aggravée encore par chacun de nos actes mauvais à l'égard de Dieu, c'est tout cela qui fait que l'homme, en permanence et depuis des millénaires, est à l'égard de son Créateur dans une situation de frustration. Il est toujours un peu inconfortable de devoir quelque chose. Il est inconfortable d'avoir contracté une dette avec quelqu'un. Et lorsqu'on voit jour après jour cette dette augmenter, pas très bien. Il suffit de regarder nos bons hommes politiques qui, chaque jour, font un bilan de la dette incommensurable des États et institutions internationales. Et analogiquement, à notre échelle, c'est un peu la même chose. Chaque jour, nous avons cette conscience d'une dette qui ne cesse de s'accroître. Alors comment faire lorsqu'on est face à cette dette? Comment faire? Je crois qu'il y a deux solutions. Soit on fuit, ce que font la plupart de nos contemporains, mais c'est vieux comme l'homme. On fuit, alors comment fait-on pour croire qu'on n'a pas de dette? Bien, on nie l'existence de Dieu. Ou on prétend en douter. Eh oui, pas de créancier, il s'appellerait Dieu, pas de débiteur, moi-même. C'est confortable. Je n'ai pas de dette, puisqu'il n'y a pas de personne à qui je doive quelque chose. Non, je suis sorti du néant, je ne dois rien à personne, je me fais moi-même, Sartre. L'homme n'est que ce qu'il se fait. Surgissement de chaque instant, sorte de liberté absolue. Quelle horreur! Vous voyez, on fuit. Deuxième solution, on a à cœur de rembourser cette dette parce qu'on croit en Dieu et qu'on veut bien faire, mais on tombe dans une espèce de situation mercantile. On tombe avec Dieu dans une relation de boursicoteur ou de négociants. C'est l'attitude des pharisiens, qui croient que parce qu'ils appliquent les 600 et quelques préceptes qui ont été prévus par leur coutume, ils peuvent se tenir pour quittes de la dette incommensurable qu'ils ont à l'égard de Dieu. C'est bien ce que leur reproche Jésus. Vous dites que vous êtes justes. Ils se prennent pour des justes. Ils s'appelaient entre eux les justes. Justes, c'est-à-dire les personnes qui rendent à Dieu en justice tout ce qui lui est dû. Tant bien, dans l'une et l'autre posture, la fuite, bien qu'il n'y a pas de créancier et donc il n'y a pas d'heure, ou la bonne conscience pharisienne, qui considère que la dette est enfin remboursée, d'autant qu'on obéit à des règles qui ont été fixées par Dieu lui-même, on est donc dans son bon droit, vous sentez bien que là ne réside pas la solution. Faut un autre moyen pour éponger cette dette. Et là intervient le génie de Dieu. Comment faire pour qu'un homme, une créature humaine, soit capable de rendre à Dieu ce qui lui est dû? C'est très simple. Ouh, c'est très simple. Pas de sang à un certain Jésus de Nazareth. Le Dieu lui-même vient dans la chair, devient un homme. Il devient l'un d'entre nous, et parce qu'il est infiniment digne, parce qu'il est l'homme parfait, qui est uni étroitement au Verbe éternel de Dieu, qui sait exactement qui est Dieu et quel culte on doit rendre à Dieu, comment éponger la dette, non seulement il en a la connaissance, mais il en a les moyens, physiques, j'allais dire physiquement, ontologiquement. Il est l'agneau sans tache, il est le Fils de Dieu fait chair. Alors lui va s'acquitter de la dette et payer en notre nom, les autres hommes, cette dette en justice. C'est-à-dire que depuis Jésus, un être humain a pu rendre à Dieu, enfin, la dette qui lui était due. C'est ce soulagement qu'apporte le Seigneur Jésus à toute l'humanité. Il permet dès lors à tous les hommes qui s'unissent au Christ, eh bien, de se tenir devant Dieu en pleine joie de pouvoir considérer que nous ne sommes plus des débiteurs perpétuels, mais que nous sommes bien les fils de Dieu. Nous avons un certain rapport d'égalité à Dieu. Bon, la condition pour pouvoir rester dans cette posture face à Dieu, qui n'est pas de la bonne conscience pharisienne, encore une fois, la bonne posture, la seule posture qui soit, c'est de rester unis en permanence au Seigneur Jésus. Ce n'est que parce que Jésus est devenu homme et qu'il a payé enfin la dette que nous pouvons être quittes. Mais nous ne pouvons demeurer quittes devant Dieu que si nous restons unis perpétuellement à Jésus. Connaissez les moyens de rester unis à Jésus, hein? Revivre en quelque sorte sa passion. C'est bien ce à quoi nous invite l'Église pendant ces 15 jours qui nous mènent au calvaire, avant de nous mener à la gloire, bien sûr. Ayez en vous les sentiments mêmes qui furent dans le Seigneur Jésus. Qui était de condition divine, va reprendre ces magnifiques paroles de saint Paul aux Philippiens dans les tout derniers jours, le Triduum Pascal. Je vous invite vraiment à préparer vos cœurs dès maintenant, parce qu'à chaque fois c'est la même chose, nous sommes éparpillés et nous arrivons au Triduum exsangue et totalement dispersés et nous n'arrivons pas à percevoir la profondeur de ces paroles. Il y a quelques jours, par le truchement de la liturgie, le Seigneur Jésus va payer enfin la dette que l'humanité avait à l'égard de Dieu, par nature et à cause de son péché. Et nous pouvons nous unir à ce Seigneur Jésus pour enfin nous tenir devant Dieu, quitte de nos propres forces humaines, mais quitte parce que Dieu a voulu nous justifier. C'est ça le fruit du Saint-Esprit. Que fait le Saint-Esprit? Il vient nous justifier, nous rendre justes devant Dieu. Coopération, et en même temps, rendons à la Vierge Marie, qui a pu trouver le chemin, évidemment, va bien nous accueillir tous ces événements des jours à venir avec le cœur qui convient et avec la disposition d'âme qui convient. Ainsi, le jour de Pâques, nous pourrons nous tenir devant notre Père, voilà, en nous disant, mon Père, je suis juste Père du Fils et du Saint-Esprit.